et notamment avec des arguments comme « oui, mais on n'a rien à cacher ». Enfin, moi, je trouve que c'est ça l'argument assez facilement renvoyé. Moi, j'avais envie de vous interpeller là-dessus, sur comment vous répondriez à ça. Enfin, quels sont, vous, vos outils pour répondre sur ce truc de « oui, mais moi, j'ai rien à cacher ».
Alors ça, moi, je veux bien réagir là-dessus. C'est un argument que, en tant que journaliste, de manière plus générale, on voit. Puis bon, même moi, je suis professeur de philosophie avec mes élèves. On fait des séquences sur le numérique, on voit ça. En fait, la question qui est un petit peu complexe, c'est de dire, alors en tant que citoyen individuel, et puis que quidam, disons. Alors déjà, dire on n'a rien à cacher, bah, c'est faux. On a parlé des pathologies socialement, évidemment, discriminantes. Enfin voilà, il y a tout ce problème-là éventuellement qui rentre en jeu et qui est très important. Déjà, au niveau individuel, dire qu'on n'a rien à cacher, c'est faux, dès qu'on y regarde un petit peu deux minutes. Et la santé, c'est quand même le principal révélateur de notre intimité. Mais par ailleurs, en fait, il y a quand même un truc aussi à un niveau politique, au niveau démocratique, c'est le fait que même si on les aime ou qu'on les aime pas, d'ailleurs, au fond, les responsables socio-économiques et politiques du pays décident, contre nous, souvent, de l'avenir du pays, et leur vie, leur donnée, leur destinée, nous lie considérablement dans des tas d'affaires. Je prends l'affaire Alstom, par exemple, qui est très connue, affaire industrielle. Frédéric Pierucci, par exemple, un des cadres dirigeants donc, du groupe Alstom, s'est retrouvé en tôle aux États-Unis, dans une affaire qui était, en fin de compte, purement et simplement un bras de fer économique entre nos deux puissances, parce qu'il était sur une boucle mail. L'extraterritorialité du droit américain s'appliquait là-dessus, alors que lui-même n'était pas coupable de ce qu'il fait exactement.
Une boucle quoi ?
De mail. Ah, oui. Boucle Gmail, et en fait, il y avait...
Sur Gmail,
on lui reprochait une affaire de corruption sur laquelle lui-même n'était pas coupable des faits qui étaient reprochés, mais la simple présence sur site justifiait de sa convocation et de l'application de la loi américaine. Et en fait, c'était un bras de fer pour menacer le patron, l'obliger à vendre et démanteler la boîte. Donc en fait, les données... Donc quand même, on dirait, j'ai rien à me reprocher. En fait, la mise en place d'un tel système met en péril notre industrie, on l'a vu, on en a la preuve. Donc on ne peut pas se désintéresser de ces choses-là parce que ça nous met en péril en termes d'emploi. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ces gens, enfin, je veux dire, on peut être totalement indifférent à leur sort. Mais en réalité, leur vie, malheureusement, dans notre système hiérarchique, capitalistique, etc., notre destin économique, social, concret, il est lié aussi au fait que la protection des données de ce type de personnes extrêmement importantes pour notre tissu socio-économique, est aussi impacté directement par l'extraterritorialité, la surveillance américaine, et directement, on en a les preuves, la justice américaine et ses rapports de force économiques brutaux. Donc, même si ces gens, effectivement, ne sont pas nos alliés objectifs pour la démocratie, potentiellement, on a quand même cette affaire-là, et le fait que refuser ce système, c'est avoir un système socio-économique plus résilient face à des impérialismes extraterritoriaux. Enfin, en tout cas, ça, c'est mon point de vue.
Et moi, j'ouvrirai mon téléphone, je ferai Edward Snowden, rien à cacher. Et je dirais, lorsque vous dites le droit à la vie privée ne me préoccupe pas parce que je n'ai rien à cacher, cela ne fait aucune différence avec le fait de dire je me moque du droit à la liberté d'expression parce que je n'ai rien à dire ou de la liberté de la presse parce que je n'ai rien à écrire. Du coup, je trouve que ça résume bien le truc. Et voilà, et donc il y a aussi une sorte de transparence, parce que pour même Assange, on peut le critiquer parce qu'il a balancé, il a leaksé des dossiers, des documents et des documents. Et par exemple, dans les documents qu'il a leaksés, il y avait l'orientation sexuelle des personnes. Donc ça peut être critiquable quand même. Et donc moi, comment j'arrive à un peu réconcilier ça, c'est une sorte de transparence. Plus on est gros, plus on doit être transparent. Et plus on est petit, plus on doit avoir le droit à la vie, au secret médical. Et donc les individus, typiquement les patients, là, on est plutôt du côté du secret de la vie, de sa vie, de ses maladies, ça c'est la médecine qui nous concerne. Et les organisations, la NSA, les renseignements français, américains, plutôt de la transparence, le gouvernement, les renseignements, il ne faut peut-être pas rêver quand même, mais du coup, les ministères, le ministère de la Santé, la CNIL, etc., etc., plutôt de la transparence dans leur politique, dans les documents qu'ils produisent, etc., etc.
Ouais. Moi, je me demandais, par rapport à ce que tu développes, Antoine, sur, ça a l'air... je me demande si tu tiens ce discours dans tout type de syndicats où, je me demandais quels sont les sous-jacents idéologiques avec lesquels vous avez réussi à vous organiser professionnellement. Quelles sont les balises de votre fonctionnement démocratique? Est-ce que vous faites des ponts entre les publics concernés par vous et vous en tant que professionnel qui sont du coup dépositaires d'une forme de démocratie sanitaire locale sur la question des données, et comment vous articulez cette question éthique-là. Et enfin voilà, en gros, vous avez quand même du pouvoir à partir de ce que vous mettez en place, ou du contre-pouvoir, autoproclamé ou pas, je ne sais pas, qui est garant éthiquement de votre cadre éthique individuel et collectif. Et voilà, où sont les valises et comment vous réfléchissez à ça ensemble. Et je trouvais ça intéressant en tout cas que ça apparaisse aussi. Parce qu'en fait, c'est quand même un sous-jacent important. Enfin, moi, j'ai l'impression que, au SMB, moi, j'ai l'impression que cette culture-là, elle existe, mais elle n'existe pas partout.
Alors, en fait, je suis ravi d'être là parce que, d'un certain point de vue, moi, ma principale envie, c'est maintenant de vous inviter, vous, qui veut venir, hein, sur le plateau de Mille Vaches, pour challenger le truc et construire le truc. Ça, plus les copains de la Fabrique des Santé, plus les copains d'Alliance Santé Planétaire, plus tout un tas de personnes qui militent dans le libre, ou qui travaillent sur la sociologie des organisations du soin, façon Birdsorg, je ne sais pas si ça vous parle. Bref, parce que tout ça, c'est quoi? En fait, c'est de la recherche en soins de premier recours, qui est transdisciplinaire. Comment est-ce que demain, on va réussir à mettre des sciences sociales, de l'éthique, de la philo, des sciences informatiques, de la science des données, de la cartographie, de la santé au sens le plus large du terme, du soin, jusqu'à pousser à l'évaluation en temps réel des médicaments, voire orienter des politiques européennes sur des empreintes carbone au comprimé pour savoir quel type d'industrie du médicament il va falloir rapatrier d'Inde et de Chine, parce que s'il y a un cargo qui reste coincé un peu trop longtemps dans le canal de Suez, il n'y a plus de paracétamol en Europe. Voilà, moi, tous les problèmes que j'ai dans la tronche. Ça fait 15 ans que je les mouline, je me lève le matin en y pensant, je me couche le soir en y pensant, ça me prend 24 heures sur 24, j'en rêve la nuit, c'est terrible. Le reste du temps, je suis avec ma gamine de 4 ans et demi et mon fils de 3 mois, et on a réussi à construire un truc, on a réussi à faire ce qu'on appelle des preuves de concept, en bidouillant MacGyver du dimanche dans le système de santé. Mais il est évident que c'est quelque chose qui va bien, bien, bien au-delà de ce que moi, je peux en penser, malgré, entre guillemets, la confiance que j'ai dans mon cadre de valeur. Enfin, au fait que je suis à peu près persuadé que ce que je fais au quotidien, je le fais pour quelque chose qui est de bonne intention. Mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc si à un moment donné, il n'y a pas une confrontation par l'avis des pairs, les plus, presque j'ai envie de dire, les plus critiques soient-ils, c'est pour ça qu'en général, je vais plutôt vers les technophobes que les technophiles quand on doit faire challenger un projet. Parce que si on reste dans son entre-soi, si on reste dans un espèce d'entre-soi, on ne progresse pas. Bon, alors après, le plateau de Mille Vaches a plusieurs facettes. Un côté très militant. Voilà, moi, ma cantine du midi, c'est le magasin général de Tarnac, pour ceux qui connaissent. Donc, si vous voulez, des gens qui sont assez sceptiques sur l'usage de la donnée, j'ai plein de copains. Donc, déjà, j'ai bien challengé la question avec des potes qui sont des hackers, ce genre de choses. Bon, après, j'ai beaucoup de personnes âgées qui n'y comprennent strictement, mais alors, rien. Mais rien de chez rien. Et pour lesquels, que ce soit ce public de personnes âgées ou des militants qui sont plutôt dans le rejet de tout type d'usage de données, faut arriver à créer des intermédiaires pour trouver des appuis pour essayer de débattre et de se comprendre sur certains aspects. Et en fait, il y a des personnes âgées qui ont vu Cache Investigation qui me disent « Ah, mais c'est ça, en fait, que vous cherchiez à faire !» J'ai dit « Oui, vous avez vu !» Donc, ça, c'est aussi une forme d'outil, maintenant, ce Cache Investigation, que je peux presque diffuser dans ma pharmacie en temps réel. Le bouquin qui a été écrit par Simon et Audrey, et un autre monsieur, je ne sais plus,
Eugène,
ça, il va avoir, moi dans ma pharmacie, je suis en train de mettre une bibliothèque dans l'espace de vente. Donc il va avoir une place aussi. L'idée, c'est d'avoir des autres choses que des médicaments. Donc ça, c'est une chose. Après, sur les milieux militants, quand il y a eu le confinement, typiquement, ils nous ont dit, nous, on aimerait savoir quel est l'état réel de l'épidémie de Covid aujourd'hui sur le plateau, parce qu'on ne comprend pas. Ça veut dire quoi? Ça, c'est une demande en open data. C'est-à-dire comment demain, les données qu'on produit, on va pouvoir peut-être en mettre une certaine partie à disposition du grand public pour que les gens puissent comprendre le pourquoi du comment en toute transparence. Si vous êtes déjà allé sur le site de l'assurance maladie Rezone CPTS, qui est un site qui permet de faciliter les analyses territoriales pour construire des projets de CPTS, bah en fait c'est ce qu'on aimerait faire à un échelon peut-être plus poussé en termes de gestion de type de déterminants de santé ou de données cliniques. Mais ce type Rezone CPTS, c'est pas mal. Alors on peut dire tout un tas de choses sur la Sécu. Et sur ses bases. Mais ce type d'outil, pour moi, c'est aussi un outil d'émancipation démocratique pour remettre de la démocratie sur les territoires. Et la démocratie, c'est pas mettre un bulletin de vote tous les 5 ou les 6 ou les 7 ans dans une urne. C'est comment est-ce qu'on va faire des assemblées populaires toutes les semaines ou toutes les deux semaines au foyer rural de Bugeat pour dire « Bon, ce soir, on se fait un visionnage du cash et ensuite on se fait un petit débat entre vieux et néo-ruraux sur qu'est-ce qui serait intéressant d'avoir comme données. Puis on va demander à l'association des marcheurs du plateau de Mille Vaches, qui bosse avec les producteurs de fruits et légumes bio locaux, s'ils ne veulent pas organiser une soirée diabétique et légumes verts pour bouffer du circuit court, du bio, et améliorer le manger bougé. Mais tout ça soulève tout un tas de questions éthiques liées à la vraie vie, qu'il est bien évident que ces questions-là doivent être mises là, au milieu, là, sur la place publique. Maintenant, nous, on fait une preuve de concept et on veut libérer le code source d'un logiciel qui finalement n'est pas réutilisable comme ça. Mais vu qu'on a développé quelque chose qu'on considère comme majeur pour le changement de pratique dans les pharmacies, on a décidé de faire l'exact inverse d'un dépôt de brevet. C'est pas simplement on a un logiciel de pharmacie comme tous les autres et on libère le code. Là, on dit non seulement on libère le code, mais on a développé un truc dessus et un récit qui est hyper bandant. Bon, alors on fait une campagne de financement participatif pour indemniser le développeur initial à hauteur de 60 000 euros. Ça fait 1 euro par pharmacien en France. Les pharmaciens s'en foutent complet. Ma profession, c'est eux qui nous mettent le plus de bâtons dans les roues. Et Cache Investigation a à peine effleuré le scandale qu'il y a derrière notre profession, parce que quand on regarde aujourd'hui, il y a un concentrateur de factures Sésame Vital que je ne nommerai pas, mais vous allez le retrouver très facilement, dont la machine qui est détenue par des syndicats de pharmaciens que je ne nommerai pas, mais vous les trouverez très facilement. IQVIA est la machine à cash de ce concentrateur. Donc en fait, il y a un tel niveau, tu parlais tout à l'heure de la vassalisation entre États, là, il y a une position en fait de servitude volontaire. Relisez la Boétie, quoi. Entre la profession de pharmacien et IQVIA, c'est pour ça que ça a fait un coup d'épée dans l'eau. Et le président de syndicat qui était dans le cash investigation, qui a fait le naïf, oulala, c'est pas bien, oulala, faut mettre les affichettes, il a très très bien joué le jeu, mais c'est absolument pas un naïf. Et en fait, tout est fait aujourd'hui pour éviter une certaine forme de scandale, parce que, voilà, donc il y a un moment donné, on a aussi besoin de journalisme d'investigation. clairement. Merci, parce que ça permet d'avancer. Et demain, de remettre le débat là où il y a un potentiel. Donc nous, on veut créer un tiers-lieu santé globale qui sera un espèce d'espace physique où on pourra accueillir en résidence les gens qui s'intéressent à la question. On est déjà sur un lieu collectif qui s'appelle La Fourmilière, où n'importe lequel d'entre vous, vous me filez votre numéro ce soir, vous voulez venir le week-end prochain, vous serez accueillis au vin et au gras. C'est pas très déterminant de santé, mais c'est la convivialité quand même. Justement, pour challenger le truc. Mais demain, c'est créer des réseaux, partager les réseaux pour créer un effet papillon. C'est pour ça qu'on... C'est QFD. Voilà, j'arrête de parler. Je parle trop.
Et vous n'avez pas présenté, du coup, Audrey.
Et oui.
Non, moi j'ai écrit
le livre. Ah oui, quand même.
Je trouve qu'il présente très bien. Donc,
Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît?
Moi je suis aussi journaliste au Vent se lève en fait, c'est juste que quand on a écrit le bouquin, on avait tous nos spécialités et moi j'étais plus sur la partie histoire-économie. Et voilà, et après Eugène, qui a aussi écrit le bouquin avec nous, lui il fait une thèse en cybernétique.
En philosophie des sciences.
En philosophie des sciences sur les questions de cybernétique, économie comportementale. Et Simon. Toi, tu as fait la partie centrale, oui, sur les propositions et donc plus les enjeux géostratégiques et sur les propositions, voilà. Mais Mais bon, en fait, je n'aurais pas mieux dit que sinon.
Enfin, c'est quand même arrivé. C'est ouais. On a fait plusieurs tours de présentation dans la journée et du coup, c'est
cool de savoir. Merci d'être là. Merci.
Alors, est-ce que François, tu voulais poser ta question?
Oui, moi, je. Si tu veux, sur l'histoire d'effet papillon, qu'est-ce que vous pensez du fait que. Le gros système des grosses plateformes, est-ce que, quelles sont leurs fragilités et, à un terme plus ou moins, est-ce qu'on peut, à la limite, la question, ce serait est-ce qu'on peut compter sur le fait que ça marche pas, ça va pas forcément marcher comme c'est prévu et que ça peut aussi se péter la figure assez grave dans un avenir pas si lointain. Donc, ça, si tu veux, ça donne une autre coloration au fait de la nécessité de construire aussi des trucs alternatifs, de développer des trucs alternatifs, parce qu'on peut très bien se trouver dans une situation où les trucs que tu développes, ça va devenir le truc de secours, quoi. Et le truc de secours, c'est un peu stylé là. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, tous les trois, puisque vous avez chacun les quatre, ouais.
Je veux bien commencer si vous voulez. En gros, la résilience des grosses plateformes, c'est un sujet. Je vous conseille d'écouter un peu celui qui en parle très bien. C'est un spécialiste de la souveraineté numérique, un entrepreneur qui revient un petit peu là en ce moment dans une phase de médiatisation importante et tout à fait souhaitable. Il s'appelle Tariq Krim, qui est un grand spécialiste de la question de la souveraineté numérique et de l'indépendance numérique européenne et française. Il était vice-président du CENI, il me semble. Et ce monsieur a une newsletter qui est super bien faite, qui participe de plus en plus à des émissions de radio, de télé. On va l'inviter avec le journal bientôt à des conférences, donc vous en entendrez parler. Et son discours est très intéressant sur le degré de résilience en fait, des GAFAM différents à l'hypothèse du démantèlement. Alors, c'est un petit peu particulier parce que la plupart, ils ont anticipé ça. Et de la même manière que le fameux Sherman Act, en fait, au début du XXe siècle, avec le pétrole, n'a pas donné un démantèlement factice, enfin, en tout cas, de façade, mais qui a, en fait, pas empêché encore le capitalisme pétrolier américain de bien prospérer d'une façon hyper concentrée quand même. En gros, par exemple, ce qu'il dit, c'est que, je crois, si Amazon, en fait, était fracturé, l'entité Amazon était fracturée en plusieurs entités, en fait, immédiatement, Amazon Web Services prendrait je ne sais pas combien en bourse et deviendrait l'entreprise immédiatement la plus cotée du monde. Donc ils s'en foutent, ils ont complètement déjà anticipé il y a 5 ans le paramétrage. Et donc les États-Unis, notamment à travers le Department of Justice, qui est un de leurs bras armés géopolitiques aussi, c'est ce qui, quand je parlais de l'affaire Pierucci, c'est le Department of Justice qui s'occupait de ça, c'est eux qui pilotent en fait le battage médiatique autour du démantèlement des GAFA. Bon, ça fait quand même pas mal d'années que le sujet est sur la table, les procédures ont commencé maintenant il y a un peu plus d'un an, même un an et demi. Bon, c'est sûr que ça va durer beaucoup de temps. Je pense que ce qui est le plus probable, ceux qui risquent de prendre quelque chose, c'est Facebook, mais c'est même pas évident, parce qu'avec leur relancement sur le métaverse, ils viennent de se positionner encore sur une technologie qui est finalement encore du divertissement toujours plus con, avec la réalité virtuelle, pour faire consommer toujours plus de bêtises aux adolescents et faire de l'argent dessus, quoi, grosso modo. À quelques exceptions près, quoi. Mais disons que, en gros, c'est pas évident qu'ils démantèlent parce qu'ils n'ont pas un intérêt géopolitique à le faire. S'ils le font, ce sera sur c'est Apple, paraît-il, qui est le moins résilient en termes d'organisation infrastructurelle. Mais c'est pas évident qu'ils le fassent en termes d'intérêt stratégique. S'ils le font, ils le font sur celui qui est le moins stratégique pour eux en termes de cloud, en termes d'accès aux informations de leurs alliés. Et a priori, il le ferait d'une façon qui ne couperait pas en fait la viabilité, la pérennité du modèle économique américain, parce qu'au fond, le S&P 500, les indices boursiers américains, ils sont tirés par la tech encore. On voit bien avec Tesla, ils veulent conquérir le marché automobile. Bon, en fait, malheureusement, l'hégémonie des GAFAM n'a rien pour durer, sauf si à la fois on développe des modèles alternatifs qui aujourd'hui sont quand même audibles. Il y a quand même des institutions d'ampleur nationale. Toi, tu as été, Adrien, plusieurs fois contacté par la représentation nationale. Enfin, c'est pris en compte maintenant, même si c'est pour l'instant par les parlementaires, etc. Il y a quand même une visibilité. Les médias, quand même, sont plutôt, faut le dire, c'est rare du côté de ce qu'on défend, a priori. En tous les cas, il y a un enjeu, une sensibilité à la souveraineté numérique qui est maintenant complètement entendue. Pourquoi ? Parce que tous les acteurs, même les gros acteurs du cloud français, OVH et tout, ils font des tribunes pour dire que le gouvernement fait n'importe quoi, ne fait pas de commande publique. Et donc, si je peux faire une recommandation encore de lecture qui, à mon avis, vous intéressera, qui est spécialiste des deux sujets, c'est l'économiste Mariana Mazzucato, qui a écrit un best-seller traduit en français chez Fayard, qui s'appelle « L'État entrepreneur », et elle est spécialiste de la santé et des GAFA.
Et donc elle a écrit que sur ces deux sujets, Big Pharma et les GAFAM, c'est le financement public, la commande publique qui est toujours déterminant dans la structuration de ces industries. Et in fine, là elle a été nommée récemment, je mentionne aussi parce que ça peut être utile pour des argumentaires, elle vient d'être nommée, ça n'a pas été trop repris en France, avec Stéphanie Kelton, donc des économistes hétérodoxes tenant de ce qu'on appelle la modern monetary theory, donc la théorie monétaire accommodante, etc., on veut, et pour aller vite quoi, et donc en fait Stéphanie Kelton et comment elle s'appelle Marina Mazzucato ont écrit des rapports pour l'OMS qui disent qu'il faut tout simplement pour faciliter l'accès aux soins d'abord avant de raconter je ne sais quel grand truc sur l'industrie et sur les PPP, il faut d'abord en fait recruter des personnels et que le premier problème de l'accès aux soins c'est les personnels et les moyens et ensuite après elle est quand même c'est ça qui est bien, c'est que c'est une économiste star, donc elle a une légitimité, une aura, y compris auprès des orthodoxes, des rigoristes, parce qu'elle dit après à quoi peut servir le secteur privé dans la distribution, et c'est là que potentiellement nous on peut intégrer plutôt nos visions de la chose à cet endroit là éventuellement. Mais en tout cas, ça peut être une référence intéressante pour voir comment on peut avoir des discours très institutionnels qui sont complètement en opposition et qui profitent de la faiblesse de nos gouvernements, pour le coup, et de la honte en fait, qu'ils s'infligent au quotidien dans les médias, on va dire, par leur comportement d'allégeance, qui aujourd'hui est tout connu de tous. Donc il faut jouer là-dessus.
Sur Apple, une petite remarque, c'est aussi Apple qui est le plus propre au niveau exploitation des données, donc c'est sûrement pour ça que c'est le moins important entre guillemets. Facebook, c'est une régie publicitaire c'est son business, c'est pas un réseau social, c'est de faire de la pub. Et sur le démantèlement, enfin la fin de tout ça, le démantèlement, j'y crois pas trop. Je dirais que c'est Mido, les limites, peut-être les limites matérielles,
C'était plutôt ça ma question.
Ouais. Du coup, on est dans l'effondrement des sociétés et tout, donc c'est vrai que ça peut rentrer dans des, donc ça en effet, ça risque de les effondrer, mais ça effondrera sûrement pas que les GAFAM et beaucoup d'autres gens. Et par contre, c'est vrai que des trucs plus résilients, je suis tout à fait d'accord. Il y a Jean Covici aussi sur ces sujets-là qui parle beaucoup les limites physiques de la planète quoi. Aussi peut-être représenter vite fait Interop aussi, parce que on a des aspects très juridiques que vous avez vu du coup attaquer au Conseil d'État et tout. Et du coup, nous, comment c'est structuré? Du coup, il y a une avocate, il y a une DPO, donc il y a une émanation de la CNIL, une déléguée à la protection des données, DPO, qui est dans l'association, donc pour aider, par exemple, normalement, vous êtes les responsables de traitement, les médecins sont les responsables de traitement en termes RGPD, c'est-à-dire que vous avez des responsabilités légales, un peu contraignantes, ça peut être chiant, mais vous avez des responsabilités légales sur les données que vous hébergez. Doctolib, par exemple, Doctolib n'est qu'un sous-traitant, vous êtes toujours les responsables de traitement. Donc pour un peu s'y repérer, notre DPO peut aider, notre délégué à la protection des données peut aider, nous aide, nous en tout cas en interne, beaucoup. Surtout, on est des développeurs, en gros on doit être 6 développeurs. Et donc on a fait le choix d'avoir des serveurs hébergeurs de données de santé, certifiés hébergeurs de données de santé, pour pouvoir installer des logiciels qui peuvent du coup être certifiés santé. Le champ est un peu libre. On est contacté par exemple par des associations de diabétiques pour surveiller leur diabète. Il y a un logiciel qui s'appelle, moi je ne connaissais pas, Night Scoot, qui permet de faire des recueils de glycémie, de voir l'évolution du machin. Enfin, c'est un logiciel open source qui est plutôt pas mal foutu. Donc nous, on peut l'installer sur nos machines qui sont certifiées pour les données de santé. On a un équivalent de WhatsApp qui peut être installé sur des machines certifiées hébergeurs de données, du coup que vous pourriez utiliser. J'imagine personne n'utilise WhatsApp pour échanger des données de santé. Voilà. Y a des alternatives. Ça s'appelle Matrix, mais vous n'êtes pas obligé de retenir le nom. On a un logiciel qui permet de se souvenir de ses mots de passe, donc qui permet de ne pas avoir le même mot de passe pour tous ces logiciels. Mais vous avez un seul mot de passe, et après le truc remplit automatiquement le mot de passe pour le service dédié. Et on est en train de développer un outil de prise de rendez-vous qui aimerait concurrencer comment ça s'appelle, Doctolib. Voilà, on avance progressivement, mais voilà, c'est aussi les petites alternatives qu'on essaie de promouvoir.
Logiciel médical. Alors, je peux rien avancer, mais il y a un logiciel labellisé maison de santé, centre de santé, qui a une culture de l'open source. Ils sont pas totalement open source, mais ils ont une culture, ils ont une partie de leur code qui est ouverte depuis 2015. Je ne les citerai pas, parce que j'attends de voir ce que ça va donner, mais vu qu'ils sont les seuls en logiciel pluripro, hein, j'entends. L'idée, c'est de discuter avec eux pour voir s'ils ne veulent pas rentrer dans une démarche d'ouverture et d'intégrer une partie du code qu'on a développé au niveau pharmaceutique. Parce que personnellement, je suis intimement persuadé que quand on va, si on arrive à réunir les logiciels de maisons de santé, qui sont plutôt hérités de l'informatique hospitalière, des logiciels de pharmaciens qui ont une culture de la production de données, et que derrière on met un peu dedans, alors passez-moi le terme, hein, je suis désolé, des fonctionnalités de gestion de la relation patient, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va gérer nos échanges directement avec les patients du territoire, avec le bon récit et le bon paradigme, je pense qu'on peut créer un outil qui soit à la fois techniquement et en termes d'usage révolutionnaire par rapport à ce qui existe, et qui soit d'entrée de jeu open source. Essayer de montrer qu'à la fois on a un outil beaucoup plus performant, et en plus il coche les cases de la transparence, de l'autogestion des données, etc. Je fais une petite précision parce qu'on en a parlé tout à l'heure, je ne suis pas au Shift Project. J'ai contribué à la rédaction du PTEF, le projet de transformation de l'économie française sur le champ de la santé, auprès du Shift Project. Et je vous invite à le lire parce que ça reste quand même du solide, et à regarder ce que fait Jean-Marc, ce que fait le Shift. Il y a une association qui s'appelle les Shifters, qui est complètement indépendante du Shift Project, qui a son propre bureau, etc., qui forcément communique avec eux. Donc je suis adhérent à cette association-là. Et pour ceux qui veulent s'intéresser à la question du Shift, il y a quand même une BD qui est sortie. Je fais la promo, mais elle est super. Entre un dessinateur, Blin et Jean-Cou. Il y avait une question que j'ai à poser parce que je n'ai pas vraiment la réponse, mais c'est plutôt un ressenti. Quand je vois le nombre d'investissements qu'il y a sur des projets d'entrepreneuriat en mode bullshit plus dans la santé numérique, je me pose la question, est-ce que le point de départ du changement ne sera pas un éclatement de la bulle d'investissement dans la santé numérique? Mais là, je n'ai pas les compétences, c'est plutôt Simon et Audrey. Enfin, est-ce que c'est quelque chose que... à un moment donné, l'investissement, au-delà des limites physiques et de se dire, bon, je vous avoue, moi, mon inquiétude, c'est que ce que dit Timothy Mitchell dans son essai aussi, c'est qu'il considère que la démocratie est arrivée, et ce que dit Jean-Claude aussi, parce qu'on a eu accès à une ressource énergétique incroyable. Donc, est-ce que la démocratie ne va pas disparaître avec les ressources carbonées?
Bon, là, effectivement, Doctolib pèse 1 milliard, mais actuellement, en tout cas sur son mode de fonctionnement,
ça dégage rien.
C'est pour ça la spéculation, effectivement.
À un moment donné, ça devrait faire... Et là, qu'est-ce qui...
Ah ben ça, c'est les politiques monétaires, en fait. C'est parce qu'on a une émission monétaire considérable, donc qui favorise... Alors moi, je suis pour, hein, parce que Mathieu Cato, dont je vous parlais, enfin, les économistes qui vont plutôt dans le sens de faire une économie plus humaine, ils sont favorables, c'est ce qu'on appelle la moderne monetary theory. C'est ce que pratique, en fait, c'est la planche à billets pour faire de l'investissement jusqu'à ce qu'on arrive au plein emploi. Quand on arrive au plein emploi, on s'occupe de l'inflation et on réduit l'émission monétaire, si je fais vraiment grosso merdo. Et là, le problème, c'est qu'en fait, entre-temps, et comme en plus on a un système politique qui ne régule pas les excès d'accumulation de fortune, les niches fiscales, tout ce que vous voulez, en fait, on a des bulles en permanence, et typiquement Internet a favorisé avec les NFT, enfin, j'allais de la création de valeur sur du néant maintenant quasiment, alors pas du néant écologique, mais du néant intellectuel ou signifiant. Je veux dire, une des dernières licornes françaises, il y en a des très bien, il y a un concurrent à Amazon qui s'appelle Miracle, qui fait des marketplaces. Bon, alors c'est du marketplace, c'est du capitalisme, c'est pourri, mais bon, j'ai envie de dire, quand c'est français, au moins ça respecte la loi française, et si on veut les tabasser, ils sont plus proches de la matraque. C'est un peu ça ma logique. Donc, bon, au moins il y a ça. Mais disons que, si vous voulez, il y a de l'autre côté la dernière licorne française, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est un truc de cartes à jouer numériques qui n'ont rien de spécial en plus. Hein. Ça s'appelle Sorare. Voilà. Vous pouvez acheter Cristiano Ronaldo, une photo numérique de Cristiano Ronaldo en NFT, et ça a été valorisé mais plusieurs centaines de millions dès l'entrée en bourse. Parce que voilà ce qui se passe quand il y a une émission monétaire considérable et qu'elle est captée immédiatement en fait par la financiarisation au lieu d'être redistribuée par le fait que la puissance publique utilise la loi et la contrainte juridique pour redistribuer cet argent via l'arme budgétaire, via l'investissement, via l'endettement de l'État directement. Voilà. Sinon, voilà, ça part dans les marchés financiers. Et là, pour le coup, pour dire si ça va venir plutôt de la santé qu'un autre secteur, ça, je ne saurais absolument pas le dire. Parce que, en fait, l'endettement des entreprises, toutes les licornes, toutes les entreprises de la tech ont quasi toutes un problème de rentabilité. C'est structurel. Il y en a très très peu qui sont rentables, voire pas du tout. Il n'y a que Amazon est rentable depuis 2015-2017, je crois. Enfin, c'est un truc fascinant, quoi. Donc, à l'heure actuelle, ça peut venir un peu d'un peu partout de ce secteur, je pense. Et les limites, notamment, à mon avis, technologiques et le renforcement de la tension géopolitique avec la Chine, et notamment la question des semi-conducteurs, aussi Taïwan et compagnie, ça va jouer, à mon avis, un déterminant majeur. La montée en tension va être un déterminant majeur de ce marché.
Et pour te répondre sur le dossier informatisé, c'est en même temps, c'est... D'avoir un logiciel libre, évidemment, je pense qu'il faut aller vers ça, mais une fois que. C'est un gros, gros engagement pour celui qui le maintient. Et donc, déjà, rien que Toubib, prise de rendez-vous comme on le conçoit nous, de toute façon, les gens pourront l'installer sur leur serveur et tout. La proportion de médecins qui va faire ça, sûrement, va être négligeable. Ça veut forcément dire qu'il faudra qu'on fasse une hotline informatique. Et alors là, interop avec 1000 euros sur son compte, ça risque d'être tout de suite très compliqué. Et moi, quand je suis de garde en réa, ça sera très compliqué d'aller débugger le truc. C'est tout de suite dans le soin. Tu vois, par exemple, on fait aussi un logiciel, un ICRF, donc c'est Case Report Form, des formulaires à la Google Form qu'on a hébergé chez nous. Et du coup, on file ça aux internes pour qu'ils puissent recueillir des données pour leur thèse, par exemple, gratuitement. Et donc, si ça plante à 3h du mat, c'est vrai qu'il perd ses données, et c'est un peu chiant, mais ce n'est pas du vital. Toubib, un rendez-vous déjà, c'est déjà chiant. Et alors, un dossier patient informatisé, c'est aussi pour ça que je dis que les organisations doivent s'en emparer. J'aimerais beaucoup avoir de l'aide. D'un truc un peu plus solide avec des gens, là, il faut des salariés, il faut des gens qui, même si c'est libre, tu vois, qui financent le truc, qui le maintiennent, il y a MedCheck, Bertrand Bouty, remède.org, qui a fait un dossier patient, MedCheck, il a lâché l'affaire. C'est super dur, enfin, c'est un boulot, il faut interfacer avec Teriac, avec HappyCrypt, qui est la messagerie, le DMP bientôt, il faut être certifié, ça coûte 10 000 régulièrement. C'est vraiment un gros, il faut se fader des docs de 200 pages pour comprendre ce qu'il faut faire. C'est un vrai investissement, donc c'est vrai que.
Connecté au DMP.
Voilà. Donc il y a besoin vraiment d'une structure, typiquement pour Toubib, pour le prise de rendez-vous, on veut s'interfacer avec le DMP, et je sais que ça va être, va falloir contacter 10 fois les gens, leur entrer dans des cases, signer des trucs, peut-être cracher de l'argent, y a vraiment besoin de médecins, en gros, qui financent ces trucs-là, et alors sûrement pas le mais des trucs, peut-être l'ordre, enfin je sais pas, mais en tout cas, interop avec
attention
notre campagne de dons. Pardon ?
Attention à l'ordre. Non, mais
je sais pas, mais en tout cas des gens, quoi. Il faudra un moment de l'argent, quoi. C'est ça.
C'est l'argent de l'ordre.
Ouais, ça c'est un manteau qui vient d'en faire.
Ah ben moi je veux bien.
Non, mais on n'est pas beaucoup mieux vernis que les pharmaciens. Hein,
je comprends pas pourquoi les ordres, vu les enjeux qu'il y a derrière, n'arrivent pas à se mettre d'accord pour faire un pot commun pour financer du livre.
C'est vraiment des organismes.
Alors, par contre, le débat sur les ordres va se faire après.
Oui. Mais c'est important parce que
on vous chauffe, on est les chauffeurs de salle.
Il y a aussi une vision des ordres.
On peut avoir cette discussion après. Il y a quand même une dernière question.
Je vais laisser un peu l'immobilier. Je trouve ça passionnant et je pense que c'est indispensable d'avoir toutes ces notions-là en tant que professionnel de santé et de médecin. Et je me posais la question de la transmission de cette information-là auprès notamment des jeunes. Je suis toujours dans cette idée-là que, en fait, si on veut que les choses changent, que si ça part dès notre formation en tant qu'étudiant d'études. Et est-ce que vous avez été contacté, est-ce que vous intervenez auprès des facultés sur cette problématique de la donnée, d'utilisation de la donnée, primordiale pour moi, et pour lequel on est très très informé, aussi sur ces notions d'informatique, enfin, on est tous débiles, enfin, moi je pense qu'on n'a pas un, voilà, comme vous parlez plein de termes techniques qui pour moi sont complètement rien, c'est du chinois. Donc voilà, est-ce que vous avez, est-ce que vous intervenez, ou est-ce que vous avez été sollicité pour intervenir, ou sinon est-ce que vous avez des idées de comment intervenir auprès du public des étudiants, parce que c'est super important pour la suite, c'est là que ça partira.
Alors. Déjà, il faut se déculer, enfin, comment dire, faut être tolérant avec soi-même. Moi, je suis un wikipédiste. C'est-à-dire que j'apprends des petits trucs par-ci, par-là. Des fois, j'en parle avec un peu d'assurance, mais je change d'avis très souvent parce que je me rends compte que je ne comprends pas grand-chose non plus et que je ne connais clairement pas grand-chose. Donc, moi, je suis une pipe en numérique. Clairement, c'est juste que j'ai parfois lu quelques trucs et comprendre certains grands concepts. Il n'y a pas besoin d'être un spécialiste de la data pour comprendre que ça a un intérêt. Beaucoup de conférences de développement d'esprit critique dans les facs. Donc simplement, arriver chez eux et poser des questions. Alors, vu que, sans le savoir, personnellement, je me suis retrouvé comme un des pionniers de la pharmacie d'officine et de l'interprofessionnalité, parce qu'un jour, je suis allé toquer auprès de la porte de la Fédé des maisons de santé, et puis il n'y avait pas d'autres pharmaciens. Je me suis retrouvé à un endroit où j'ai été le premier, ce qui est un peu chiant, parce que du coup, je me suis senti investi d'une mission. Et à pas lâcher l'affaire. Donc je lâche pas l'affaire. Bon, l'ANEPF, l'Association nationale des étudiants en pharmacie de France, à l'époque 2015-2016, m'a beaucoup fait intervenir sur les questions d'interpro. Et puis après, ça amène des journalistes. On parle, on fait ci, on fait ça. Et maintenant, avec la fac de Limoges, j'ai 2 heures de cours par an. Et là, je suis en train peut-être d'essayer d'intégrer une unité d'enseignement. Mais j'ai un statut d'intervenant, mais je n'ai pas de diplôme, j'ai que dalle. J'étais un étudiant médiocre, tout ce qu'il y a de plus basique, pour venir poser les questions. Simplement leur dire, cette fameuse phrase, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Allez-y, on va débattre, on va se poser la question. C'est quoi l'enjeu autour des données? C'est quoi l'enjeu autour des limites physiques? Je veux dire, les pharmaciens d'officine, les pharmaciens, à la base, on est des physico-chimistes. C'est ça que je leur dis. Je leur dis, les lois de la thermo, putain, on les a potassées pour passer notre concours, quoi. Donc, principe de conservation de l'énergie et l'entropie, si on n'est pas capable d'avoir l'honnêteté intellectuelle de comprendre qu'il y a un problème, c'est du même niveau qu'un ingénieur en aéronautique qui n'a rien à branler de la loi de la gravité, quoi. Donc, je vais leur parler comme ça, pour les secouer un peu. Et je filme. Et donc, on a des contenus vidéo. Ça commence, voilà. Alors après, j'aimerais un jour écrire un bouquin, mais je suis nul en littérature. Je sais parler à peu près, mais je sais pas écrire de phrases correctement en étant compris. Mais après, il y a des relais qui se font. Il y a des papiers par des journalistes. Et puis hop, un jour, un coup de fil. Je suis journaliste à Cache Investigation. Et là, moi, j'ai pris une décharge d'adrénaline. Je suis putain, c'est incroyable, mais comment vous m'avez trouvé? J'ai tapé pharmacien militant sur Google et je suis désolé, j'ai trouvé de vous. Je caricature à peine. Hein. Et donc là, je fais, vas-y, débarque. On sortait du confinement. Bon, il a fallu attendre avant la sortie. Moi, j'étais comme ça parce que ça fait 15 ans que je suis sur le truc. Faire du militantisme dans la pharmacie d'officine, c'est rigolo parce qu'on n'est pas nombreux. Donc. Les étudiants, ils tendent l'oreille parce que forcément, il y a un changement de culture. Ils sentent bien qu'il y a un problème au niveau environnemental. Donc, qui va être capable de commencer le début d'un commencement d'un discours pertinent? On n'est pas nombreux. Donc, forcément, c'est, entre guillemets, facile d'aller là-dessus. J'interviens un peu dans les facs, mais maintenant, ça manque aussi de relais. Il faut réseauter. Et c'est du réseautage, ça prend du temps.
La sollicitation, c'est la fac.
Ouais, parce qu'ils avaient 2 heures de cours où ils voulaient caser de l'informatique officinale. Et le doyen, qui était un de mes profs, avait entendu parler que je développais un logiciel. Et donc il m'a dit, Antoine, tu veux pas venir parler de logiciel de pharmacie? J'ai dit, oh si, aucun problème, quel jour, quelle heure. Et je viens mettre un peu le... C'est comme ça que ça commence. Mais si on attend demain des départements universitaires, des médecines généraux qui s'intéressent, enfin je suis désolé, hein, qui s'intéressent à ce qui se passe, enfin on est dans un système...
Ouais, ça évolue.
Oui, ça évolue tranquillement. À Angers, vous avez de la chance.
Enfin, il y a des choses qui...
Si, Aline Ramon, Sébastien Faure, ils cogitent, ils commencent à penser différemment. Mais dans le monde réel, c'est médicalo, hospitalo, parisiano, patriarco-centré, quoi. Enfin, c'est... Voilà, c'est quatre mots, et donc j'ai la chance de ne pas être une femme, mais je suis pharmacien d'officine médiocre sur le plateau de Mille Vaches. Enfin, qu'est-ce que tu veux que... Faut aller chercher le truc, quoi. C'est hyper dur.
Et toi, en tant qu'anesthésiste, est-ce que c'est des choses... pour lequel toi, tu avais été informé pendant tes études, ou c'est de toi-même? Et à l'opposé, est-ce que toi, maintenant, t'en parles à tes internes et à tes... C'est des choses aussi que tu essaies de transmettre, il y a des choses qui sont établies ouais.
On n'en avait pas parlé du tout en formation. Du coup, c'est ouais, j'ai fait une école d'informatique pendant l'internat. Et oui, j'en parle volontiers. Après, j'y vais pas parce que je veux pas être chiant, mais.
C'est pas une thématique de cours plus tard, en disant aujourd'hui, le docteur Adrien, va vous parler de l'utilisation des données santé numériques.
Non. C'est... Et puis, ouais, non. Et puis, après, j'ai jamais été contacté par les facs ou quoi, non. Ouais. Non.
Bah, je t'invite à Limoges.
Allez.